les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Haïm Corsia, bonjour.
Bonjour.
Vraiment un mot où je crois que dans la Bible, on doit trouver plusieurs endroits où on parle des puits, non ?
Énormément. C'est autour des puits, on se retrouve. Autour des puits, on se bat. On s'entretue. Et on se marie.
Ah, on se marie autour des puits ?
Lorsque, par exemple, lorsqu'Avraham charge Eliezer, son serviteur, d'aller chercher une femme pour Isaac, son fils, il lui dit, va au bord du puits. Parce que le puits est l'endroit où on se trouvait. Alors, il se passe quelque chose de merveilleux autour de ce puits. Eliezer, le serviteur, arrive au bord du puits et dit à Dieu, mon Dieu, regarde. Moi, je voudrais trouver une fille merveilleuse pour Isaac, le fils de mon maître Abraham. La fille qui viendra, et à qui je dirai, mademoiselle, j'ai soif. Celle qui me dira, non seulement je vais te donner à boire, mais je vais donner à boire et puiser de l'eau pour tous tes chameaux. Celle-ci sera digne d'épouser Isaac.
Et pourquoi ? Parce qu'elle est plus généreuse que les autres ?
Oui.
Parce qu'elle va plus loin que ce qu'on lui demande ?
Parce qu'elle maîtrise aussi la peur. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avons parlé de la peur. Parce qu'elle maîtrise la peur d'aller au fond du puits pour apporter de l'eau pour les autres. Et finalement, dans la société, vous avez ceux qui osent au service des autres et ceux qui sont pétrifiés, qui attendent que d'autres ouvrent les flots.
Parce que le puits, effectivement, au fond, c'est quand même assez mystérieux. On sait qu'on va y trouver l'eau, mais enfin, c'est quand même
pas toujours.
Des symboles de l'inconscient, le puits.
Bien sûr, mais pas toujours, on ne trouve pas de l'eau. Il y a, vous connaissez le puits célèbre dans lequel les frères de Joseph le jettent.
Et oui, des puits, des citernes, ça peut être aussi une citerne, je suppose
là,
qu'il y avait ça
puits,
aussi.
Alors, le verset de la Bible est étonnant. Vous savez, donc, les frères se réunissent pour comploter contre Joseph, qui les exaspère.
Ils sont jaloux.
Avec ses interprétations de rêve. Ils sont jaloux. Ils disent, bon, bah, très bien, on va lui régler son compte. Ils le prennent, ils le jettent dans un puits. Et le verset de la Bible dit, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Les commentaires demandent, bon, ça va, s'il était vide, on sait bien qu'il n'y a pas d'eau. Et les commentaires, Rachid, vous savez, le fameux commentateur champenois, dont on cite en fait tout le temps les interprétations en oubliant de citer le nom. Et comme nous sommes dans le 900e anniversaire...
C'est Rachid de Troyes, celui de Troyes, voilà, c'est
grand
ça.
Grand 23,
on va faire une chronique dessus un jour.
Très bien.
On va faire ça.
Mais Rachid, donc, qui est mort il y a 900 ans, nous sommes dans le 900e anniversaire, et il fait partie des grandes commémorations nationales.
C'est nationale, oui, absolument.
Il y a eu un timbre cette année, c'est la première fois qu'un timbre est dédié à un rabbin. J'étais très heureux de... cette forme de reconnaissance de l'apport du judaïsme à l'âme de la France. Mais donc Rachid dit une chose merveilleuse, si le puits était vide et il n'y avait pas d'eau, c'est qu'il était plein d'autres choses. Et de quoi était-il plein ?
Ben oui, je me le demande.
De scorpions, de serpents.
Ah, quelle horreur !
Mais voilà. C'est-à-dire que le puits, c'est le lieu aussi de l'inquiétude. C'est-à-dire c'est le lieu où s'il y a de l'eau, c'est magnifique. S'il n'y a pas d'eau, c'est un endroit où forcément on cultive autre chose. Mmh. Et quand il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de l'eau à partager, et bien entendu, comme pour nous, la tradition rabbinique, l'eau est comparée à la Torah. De la même façon que l'eau est nécessaire à la vie de l'homme, la Torah est nécessaire à la vie, la Bible est nécessaire à l'homme, mais s'il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire que si des hommes créent un lieu de rencontre et qu'ils n'y mettent pas de l'eau de la Torah, alors ils y mettent quoi ? Des bagarres stériles. Et on sait, si on pourrait transposer dans le monde actuel, si les hommes se retrouvent pour discuter du bien public, c'est bien. S'ils se retrouvent pour pas discuter du bien public, forcément ils diront du mal les uns des autres et ça amènera les scorpions et les serpents, c'est-à-dire les disputes, la jalousie, la haine, la violence et la mort.
Mmh. Mais c'est à la fois symbolique et en même temps ça peut être effectivement très réel. Et donc la Torah, pour vous les juifs, c'est une source. C'est comme une source, c'est comme de l'eau vive.
Exactement. Et c'est le mot qui est employé,
vous
c'est de l'eau vive.
Vous allez vous y désaltérer régulièrement, justement.
Oui, c'est-à-dire que mieux, la Torah, c'est une part, de la même façon que l'homme est composé d'eau, la Torah, c'est une forme, c'est une part de ce qu'est l'homme. C'est l'eau du corps, et la Torah est l'eau de l'âme, en quelque sorte. Et je crois qu'on compare la Torah à quatre sortes de breuvages. L'eau, le vin.
Qui donne l'ivresse.
Voilà. Le secret. Le miel. Mm-hmm. Et le lait. Et avec ces quatre, je sais pas si on les trouve tous les quatre dans un puits, mais enfin, quand on va dans un puits, on trouve aussi les autres. Et ça me fait penser à une forme architecturale dans toutes les synagogues en France, où très souvent sur les synagogues, vous voyez comme parfois les temples protestants, vous voyez écrit une phrase à l'entrée, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » C'est-à-dire que quand on cherche Dieu, on rentre dans une synagogue. Et quand on sort, il y a une phrase qui est marquée « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est-à-dire qu'on entre en cherchant Dieu, on sort en trouvant l'homme. Ben, je crois que quand un homme est motivé par l'idée de répondre à ses besoins, chercher de l'eau, il arrive à l'endroit du puits, qui est l'endroit où tout le monde se trouve. Dans le désert, dont on parlait il y a quelques semaines, dans le désert, quel est l'endroit dont on rêve ? l'oasis,
mais
le puits.
Évidemment, oui.
C'est-à-dire l'endroit où non seulement on va trouver de l'eau qui va nous permettre
mais
de
servir,
on va trouver les autres.
Voilà,
parce que dans cette solitude du désert, oui. Donc dans la solitude du monde, c'est l'endroit du puits. Or, on se retrouve pour deux, trois choses. On se retrouve pour quoi? Pour construire et pour faire la guerre, pour se détruire. Et l'eau, le puits, c'est l'endroit où on se retrouve pour construire.
En fait, on va y trouver pas seulement les autres, mais on va aussi y trouver tous les règnes. On va y trouver l'animal et le végétal, c'est-à-dire l'ensemble de la création, d'une certaine façon.
Qui a besoin de cette eau. Et on voit bien que, par exemple, lorsque, et un passage étonnant, lorsque Jacob nous dit, par exemple, à un moment, pour lever la pierre qui protège le puits, il faut se retrouver à plusieurs. Et il était impossible de bouger la pierre autrement qu'à plusieurs. Et Jacob, tout comme Moïse, qui vont venir au bord des puits pour rencontrer leur promise, eh bien, vont trouver la force de soulever seul cette pierre qui protège l'eau. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, quand je viens pour le bien public, je représente le peuple et je peux seul à ce moment-là bouger une pierre que d'habitude on doit bouger à plusieurs. Finalement, le puits, c'est l'endroit où on se retrouve.
Voilà une très belle définition. Peut-être on va trouver un puits bientôt dans Paris.
Ça serait nécessaire.
Nécessaire, voilà. En tout cas, merci à Aïm Corsia. Et la prochaine fois, on vous retrouve alors autour d'un nouveau mot dont on va garder la surprise.
Exactement.
Cette fois-ci. À bientôt.
À bientôt.